7h-9h, les matins de France Culture. Guillaume Erner.
Bataille politique autour de la 5G hier devant un parterre de dirigeants d'entreprises du numérique. Emmanuel Macron a vanté le tournant de la 5G pour la France, déclenchant une nouvelle salve de critiques. Bonjour Dominique Boulier, vous êtes professeur des universités en sociologie à Sciences Po et on vous doit notamment sociologie du numérique chez Armand Collin. Il faut tout d'abord nous rappeler ce qu'est la 5G et ce qu'elle pourrait technologiquement permettre.
Alors, ce qui est important, c'est de comprendre justement, pour clarifier le débat, qu'il y a plusieurs 5G en gros, hein, parce qu'elle a trois bandes de fréquences qui peuvent être utilisées. Une bande qui de 700 MHz, qui en réalité augmente la 4G actuelle, une autre bande de 3,5 GHz et une autre de 26,6 GHz, qui sont vraiment des ondes millimétriques et qui permettent, elles, de diminuer surtout la latence. Alors la latence, c'est quoi? C'est la réactivité qu'il peut y avoir entre les objets connectés et les serveurs, etc., et les antennes, etc. Et donc, c'est pas tout à fait la même chose selon le type de techno dont on parle. Or, dans le paquet de discussions que l'on a, tout est prévu, dans l'attribution des fréquences qui est prévue, tout est prévu en même temps, mais la nature du débat serait assez différente s'il s'agit seulement d'augmenter le débit, comme le propose d'ailleurs Stéphane Richard, le PDG d'Orange, c'est ça qu'il met en avant, alors que d'autres disent que c'est carrément un changement de type de relation avec l'environnement, avec les objets, et à partir de ce moment-là, c'est quelque chose qui va modifier les applications possibles et qui surtout est beaucoup moins connu du point de vue sanitaire, par exemple, du point de vue environnemental, de ses conséquences et des problèmes de sécurité que ça peut poser.
Oui, mais alors, Dominique Boulier, ce que l'on se dit, c'est qu'il y a beaucoup de zones, alors, par exemple, dans la Drôme, mais pas uniquement, où la 3G déjà n'existe pas. Est-il raisonnable dans ces conditions de passer à la 5G ?
C'est une des questions qui mérite d'être posée dans le débat qui est demandé par beaucoup de gens, qui consiste à dire que la technologie qu'on nous propose, en réalité, va forcément être déployée dans les endroits où les marchés sont déjà présents et où elles vont être rentables, alors que l'on a des exigences pour la qualité du réseau et l'égalité dans les territoires, donc ce qui est le cas pour les zones blanches, et c'est quelque chose qui n'est pas du tout prévu en termes de stratégie, parce que c'est ça le problème. Le débat n'est pas de pour ou contre la technologie, c'est quelle est la stratégie que nous voulons en tant que pays déjà, et au niveau européen bien entendu. Et donc les inégalités de territoire sont un des problèmes qui mériterait d'être résolus et sur lesquels il faudrait mettre de l'argent. Et là, il n'y a pas forcément besoin de 5G, effectivement, la 4G d'une part, mais aussi la fibre de plus en plus, puisque celle-là, sur le plan sanitaire, elle ne pose pas de problème. Et de l'autre côté, les problèmes de sécurité dans un réseau qui est complètement vraiment très fragile et menacé par les hackers très très souvent, on le voit bien, on en entend parler tous les jours, eh bien il y a un investissement considérable qui serait nécessaire dans la qualité du réseau avant de se lancer dans des investissements pour faciliter la connexion d'objets connectés qui vont être des portes d'entrée aux hackers absolument extraordinaires. Quoi.
Alors la question sanitaire, elle se pose, Dominique Boulier, parce que là aussi, il y a les théories les plus variées sur la nocivité ou l'absence de nocivité de la 5G, c'est compliqué d'avoir une vision définitive de ce sujet.
Je pense qu'il sera de toute façon compliqué d'avoir une vision définitive parce que on est en train d'associer, si vous voulez, toute une soupe d'ondes, si vous voulez, dans lesquelles nous vivons déjà petit à petit, et que dégager des facteurs et des causalités spécifiques, c'est assez compliqué. Mais on peut mener les expériences, on peut surtout admettre qu'il faut un peu de temps pour avoir des rapports argumentés sur ce sujet-là et limiter les risques. Et comment on fait cela? Eh bien, en fixant des cahiers des charges qui soient minimalistes sur le plan des ondes qui sont utilisées. Et à partir de ce moment-là, on garantit au moins d'assurer une forme de sécurité élémentaire. Ça ne garantira pas tout, évidemment, parce qu'on n'est pas dans des situations, on reste dans des situations d'incertitude. Mais en même temps, on peut avoir petit à petit un minimum d'expérience qui doit faire partie du temps qu'on a besoin, si vous voulez, de ceux qui disent qu'il faut un moratoire. C'est aussi pour cela. On peut tester un peu plus sur un certain nombre de choses et avoir un peu plus de garantie. Il n'y aura pas de garantie totale, c'est vrai. Dans le monde dans lequel on est, il faut arrêter de rêver cela. Mais on doit prendre au sérieux les remarques qui sont faites quand on associe un tel nombre de fréquences désormais qui nous traversent, dans lesquelles nous vivons. Quoi.
J'ai lu également que la 5G était très énergivore et que par exemple en Chine, on la coupait la nuit, c'est vrai ?
Alors oui, c'est ça l'intérêt. Alors c'est ce qui est vanté d'ailleurs par les promoteurs de la 5G désormais. Avant ils n'en parlaient pas, mais maintenant ils en parlent. C'est qu'on a une forme de nécessité d'une part, parce que comme vous le dites, elle consomme de l'énergie, mais on peut désormais la réguler d'une certaine façon, beaucoup plus finement. Et donc on nous dit qu'elle est alors efficiente sur le plan énergétique. Hein, elle est beaucoup plus efficiente et que c'est donc un progrès de ce point de vue-là. Le problème, c'est qu'il faut faire cette analyse au niveau de toute la chaîne de la production depuis des serveurs, etc., des données, etc., mais aussi des antennes, mais aussi des terminaux, et d'autre part, et donc leur bilan écologique global doit être pris en compte. Or, on sait que ce type de technologie est fait uniquement pour dire accélérer d'une part les débits et donc permettre augmenter pardon les débits et permettre à partir de ce moment-là de consommer encore plus tout ce que l'on aime, hein, les séries, etc., mais les consommer à tout moment, partout, dans n'importe quel endroit. Bon, est-ce que c'est absolument indispensable? On n'en sait rien, mais en tout cas c'est quelque chose qui va augmenter, même avec une technologie plus efficiente, qui augmentera la consommation globale. Et donc, nous sommes là, contrairement, totalement à l'encontre des objectifs de ce que, d'ailleurs, la Convention citoyenne pour le climat demandait, c'est-à-dire de dire, faisons un moratoire, parce que là, nous entrons dans une vague de consommation massive qui n'est pas du tout en phase avec, la COP21 de Paris. Quoi.
Mais alors, ce que l'on ne comprend pas, Dominique Boulier, si on coupe la 5G la nuit, comment font les objets connectés? Puisqu'on nous vante les mérites de la 5G pour les objets connectés. Ça veut dire qu'on n'a pas d'objet connecté la nuit?
Ah ben c'est en fonction de stimuli, si vous voulez, hein, les antennes se réactivent en fonction des stimuli qui sont envoyés. Donc c'est de ce point de vue-là, c'est intelligent, comme on dit. Et de fait, c'est pas, il y a beaucoup de choses que l'on a chez nous, comme dans l'environnement urbain, qui restent connectées en permanence alors qu'elles pourraient ne pas l'être. Hein, et donc on peut avoir des pings qu'on envoie et qui déclenchent l'activité de l'antenne si c'est nécessaire, vous voyez.
Dans les pays où la 5G a été déployée, comment ça se passe?
Alors il y a assez peu de pays où elle est vraiment déployée. Puis encore une fois, il faudrait savoir exactement quelle est la 5G qui a été déployée, puisqu'il y a assez peu d'applications réellement opérationnelles désormais en ce moment. En revanche, par exemple, un pays comme la Suisse qui s'est lancé très vite dans cette affaire se retrouve dans la situation où désormais ils sont obligés d'arrêter l'installation des antennes parce qu'il y a une opposition sur le terrain qui est telle que du coup ils ont été obligés de rassurer la population et de dire bon ben on attend et on relance un débat. Alors vous voyez que le problème, c'est refuser le débat maintenant pour l'avoir plus tard, y compris dans des situations bien plus conflictuelles, c'est pas forcément très malin. Je pense qu'on peut prendre le temps. Il n'y a pas une absolue urgence, parce que comme je le disais, les applications ne sont pas là, les services ne sont pas là, et notamment pour tout ce qui est les objets connectés, il y a bien des choses qui ne seront disponibles que dans 2024 pour certains, et d'autres on ne sait pas du tout. Donc on peut se prendre ce temps-là en France, mais l'idéal ça aurait été que ce soit en Europe, parce que précisément il faut prendre le leadership pour fixer un cahier des charges qui soit une alternative aux pressions qui sont celles d'une part de la Chine et d'autre part des États-Unis. En l'occurrence, les constructeurs européens que sont Nokia et Ericsson sont aussi dans la boucle, donc on a intérêt, nous aussi, en tant qu'Européens, à fixer des cahiers des charges assez stricts dès maintenant. Quoi.
Merci Dominique Boulier. Je rappelle que vous êtes professeur de sociologie à Sciences Po et vous avez notamment publié Sociologie du numérique aux éditions Armand Collin. Il est 7h23 sur France Culture.